Chapitre 5. La route de Paris, l'apparition. Le soir même où s'étaient accomplis les événements que nous venons de raconter, un événement non moins grave avait mis en rumeur tout le collège de l'abbé Fortier. Sébastien Gilbert avait disparu vers les 6 heures du soir et, à minuit, malgré les recherches minutieuses faites dans toute la maison par l'abbé Fortier et mademoiselle Alexandrine Fortier, sa sœur, il n'avait point été retrouvé. On s'était informé à tout le monde et tout le monde ignorait ce qu'il était devenu. La tante Angélique, seule, sortant de l'église où elle était allée ranger les chaises vers les 8 heures du soir, croyait l'avoir vu prendre la petite rue qui passe entre l'église de la prison et regagner tout courant le parterre. Ce rapport, au lieu de rassurer l'abbé Fortier, avait ajouté à ses inquiétudes. Il n'ignorait pas les étranges hallucinations qui parfois s'emparaient de Sébastien quand cette femme qu'il appelait sa mère lui apparaissait, et plus d'une fois en promenade, l'abbé, qui était prévenu de cette espèce de vertige, avait suivi l'enfant des yeux quand il l'avait vu partout s'enfoncer dans le bois et, au moment où il craignait de le voir disparaître, avait lancé après lui les meilleurs coureurs de son collège. Les coureurs avaient toujours trouvé l'enfant, haletant, presque évanoui, adossé à quelque arbre au coucher, de tout son long sur la mousse, tapis verdoyant de ses magnifiques futaies. Mais jamais pareil vertige n'avait pris Sébastien le soir. Jamais, pendant la nuit, on n'avait été obligé de courir après lui. Il fallait donc qu'il fût arrivé quelque chose d'extraordinaire, mais l'abbé Fortier avait beau se creuser la tête, il ne pouvait deviner ce qui était arrivé. Pour parvenir à un plus heureux résultat que l'abbé Fortier, nous allons suivre Sébastien Gilbert, nous qui savons où il est allé. La tante Angélique ne s'était point trompée. C'était bien Sébastien Gilbert qu'elle avait vu se glissant dans l'ombre et gagnant à toutes jambes cette portion du parc qu'on appelle le parterre. Arrivé dans le parterre, il avait gagné la faisanderie, et puis en sortant de la faisanderie, il s'était lancé dans cette petite rue qui conduit droit à Aramon. En 3 quarts d'heure, il était au village. Au moment où nous savons que le but de la course de Sébastien était le village d'Aramon, il ne nous est point difficile de deviner qui Sébastien avait été chercher dans ce village. Sébastien était allé y chercher Pitou. Malheureusement, Pitou sortait par un côté du village, tandis que Sébastien Gilbert était entré par l'autre. Car Pitou, on se le rappelle, à la suite du festin que s'était donné à elle-même la garde nationale d'Aramon, après être, comme un lutteur antique, resté debout quand tous les autres étaient terrassés, Pitou s'était mis à la recherche de Catherine et, on se le rappelle encore, ne l'avait trouvée qu'évanouie sur le chemin de Villers-Cotterêts à Pisseleu et ne conservant de chaleur que celle du dernier baiser que lui avait donné Isidore. Gilbert ignorait tout cela. Il alla droit à la chaumière de Pitou, dont il trouva la porte ouverte. Pitou, dans la simplicité de sa vie, ne croyait pas qu'il eût besoin de tenir sa porte fermée, présent à la maison comme absent. D'ailleurs, eut-il l'habitude de fermer scrupuleusement sa porte que ce soir-là, il était sous le poids de préoccupations telles qu'il eût bien certainement oublié de prendre cette précaution. Sébastien connaissait le logis de Pitou comme le sien propre. Il chercha l'amadou et la pierre à feu, trouva le couteau qui servait à Pitou de briquet, alluma l'amadou, avec l'amadou alluma la chandelle et attendit. Mais Sébastien était trop agité pour attendre longtemps et surtout pour attendre tranquillement. Il allait incessamment de la cheminée à la porte, de la porte à l'angle de la rue, puis, comme sœur Anne ne voyant rien venir, il retournait vers la maison pour s'assurer qu'en son absence, tout n'était pas rentré. Enfin, voyant que le temps s'écoulait, il s'approcha d'une table boiteuse où il y avait de l'encre, des plumes et du papier. Sur la première page de ce papier étaient inscrits les noms, prénoms et âges des 33 hommes formant l'effectif de la garde nationale d'Aramon et marchant sous les ordres de Pitou. Sébastien enleva soigneusement cette première feuille, chef-d'œuvre de calligraphie du commandant, qui ne rougissait pas pour que la besogne fût mieux faite de descendre parfois au grade subalterne de fourrier. Et puis il écrivit sur la seconde. « Mon cher Pitou, J'étais venu pour te dire que j'ai entendu, il y a 8 jours, une conversation entre Monsieur l'abbé Fortier et le vicaire de Villers-Cotterêts. Il paraît que l'abbé Fortier a des connivences avec les aristocrates de Paris. Il disait au vicaire qu'il se préparait à Versailles une contre-révolution. C'est ce que nous avons appris depuis à l'endroit de la reine qui a mis la cocarde noire et foulé aux pieds la cocarde tricolore. Cette menace de contre-révolution, ce que nous avons appris ensuite des événements qui ont suivi le banquet, m'avait déjà fort inquiété pour mon père qui, comme tu sais, est l'ennemi des aristocrates. Mais ce soir, mon cher Pitou, cela a été bien dit. Le vicaire est revenu voir le curé et, comme j'avais peur pour mon père, je n'ai point cru qu'il y avait du mal à écouter exprès la suite de ce que, l'autre jour, j'avais entendu par hasard. Il paraît, mon cher Pitou, que le peuple s'est porté sur Versailles. Il a massacré beaucoup de personnes et, entre ces personnes-là, Monsieur Georges de Charny. L'abbé Fortier ajoutait, parlons bas pour ne pas inquiéter le petit Gilbert dont le père est allé à Versailles et pourrait bien avoir été tué comme les autres. Tu comprends bien, mon cher Pitou, que je n'en ai pas écouté davantage. Je me suis glissé tout doucement hors de ma chambre sans que personne m'entendît. J'ai pris par le jardin, je suis allé sur la place du château et tout courant, je suis arrivé chez toi pour te demander de me reconduire à Paris, ce que tu ne manquerais pas de faire et de grand cœur même si tu étais ici. Mais comme tu n'y es pas, comme tu peux tarder à revenir, étant probablement allé tendre des clés dans la forêt de Villers-Cotterêts, comme dans ce cas-là tu ne rentreras qu'au jour, mon inquiétude est trop grande et je ne saurais attendre jusque-là. Je pars donc seul. Sois tranquille, je sais le chemin. D'ailleurs, sur l'argent que mon père m'a donné, il me reste encore 2 louis et je prendrai une place dans la première voiture que je rencontrerai sur la route. Post-scriptum, j'ai fait ma lettre bien longue, d'abord pour t'expliquer la cause de mon départ, ensuite parce que j'espérais toujours que tu reviendrais avant qu'elle fût finie. Elle est finie, tu n'es pas revenu, je pars. Adieu, ou plutôt au revoir. S'il n'est rien arrivé à mon père et s'il ne court aucun danger, je reviendrai. Sinon, je suis bien décidé à lui demander instamment de me garder auprès de lui. Tranquillise l'abbé Fortier sur mon départ, mais surtout ne le tranquillise que demain, afin qu'il soit trop tard pour faire courir après moi. Enfin, décidément, puisque tu ne reviens pas, je pars. Adieu, ou plutôt au revoir. Et sur quoi, Sébastien Gilbert, qui connaissait l'économie de son ami Pitou, éteignit la chandelle, tira la porte et partit. Dire que Sébastien Gilbert n'était pas un peu ému en entreprenant de nuit un si long voyage, ce serait mentir, certainement. Mais cette émotion n'était point ce qu'elle eût été chez un autre enfant, de la peur. C'était purement et simplement le sentiment complet de l'action qu'il entreprenait, laquelle était une désobéissance aux ordres de son père, mais en même temps une grande preuve d'amour filial, et cette désobéissance devait être pardonnée par tous les pères. D'ailleurs, Sébastien, depuis que nous nous en occupons, avait grandi. Sébastien, un peu pâle, un peu frêle, un peu nerveux pour son âge, allait avoir 15 ans. À cet âge, avec le tempérament de Sébastien, et quand on est le fils de Gilbert et d'André, on est bien prêt d'être un homme. Le jeune homme, sans autre sentiment que cette émotion inséparable de l'action qu'il commettait, se mit donc à courir vers Largny, qu'il découvrit bientôt à cette pâle clarté qui tombe des étoiles, comme dit le vieux Corneille. Il longea le village, gagna le grand ravin qui s'étend de ce village à celui de Vaucienne et qui encaisse les étangs de Walluy. À Vaucienne, il trouva la grande route et se mit à marcher plus tranquillement en se voyant sur le chemin du roi. Sébastien, qui était un garçon plein de sens, qui était venu en parlant latin de Paris à Villers-Cotterêts et qui avait mis 3 jours pour venir, comprenait bien qu'on ne retourne pas à Paris en une nuit et ne perdit pas son souffle à parler aucune langue. Il descendit donc la première et remonta la seconde montagne de Vaucienne au pas, puis arrivé sur un terrain plat, il se mit à marcher un peu plus vivement. Peut-être cette vivacité dans la marche de Sébastien était-elle excitée par l'approche d'un assez mauvais passage qui se trouve sur la route et qui, à cette époque, avait une réputation d'embuscade complètement perdue aujourd'hui. Ce mauvais passage s'appelle la fontaine eau claire, parce qu'une source limpide coule à 20 pas des deux carrières, qui, pareil à deux antres de l'enfer, ouvrent leur gueule sombre sur la route. Sébastien eut-il ou n'eut-il pas peur en traversant cet endroit, c'est ce que l'on ne saurait dire, car il ne pressa point le pas, il ne s'écarta point du milieu du chemin, ralentit son pas un peu plus loin, mais sans doute parce qu'il était arrivé à une petite montée, et enfin atteignit l'embranchement des deux routes de Paris et de Crespy. Là, il s'arrêta tout à coup. En venant de Paris, il n'avait pas remarqué quelle route il suivait. En retournant à Paris, il ignorait quelle route il devait suivre. Était-ce celle de gauche? Était-ce celle de droite? Toutes deux étaient bordées d'arbres pareils, toutes deux étaient pavées également. Personne n'était là pour répondre à la question de Sébastien. Les deux routes, partant d'un même point, s'éloignaient l'une et l'autre visiblement et promptement. Il en résultait que si Sébastien, au lieu de prendre la bonne route, prenait la mauvaise, il serait, le lendemain au jour, bien loin de son chemin. Sébastien s'arrêta, indécis. Il chercha, par un indice quelconque, à reconnaître celle des deux routes qu'il avait suivies, mais cet indice qui lui eût manqué pendant le jour, lui manquait bien autrement dans l'obscurité. Il venait de s'asseoir, découragé, à l'angle des deux routes, moitié pour se reposer, moitié pour réfléchir, lorsqu'il lui sembla entendre dans le lointain, venant du côté de Villers-Cotterêts, le galop d'un ou de deux chevaux. Il prêta l'oreille en se soulevant. Ce n'était pas une erreur. Le bruit de fer de chevaux, retentissant sur la route, devenait de plus en plus distinct. Sébastien allait donc avoir le renseignement qu'il attendait. Il s'apprêta à arrêter les cavaliers au passage et à leur demander ce renseignement. Bientôt il vit poindre leur ombre dans la nuit, tandis que sous les pieds ferrés de leurs chevaux jaillissaient de nombreuses étincelles. Alors il se cacha tout à fait, traversa le fossé et attendit. La cavalcade se composait de deux hommes, dont l'un galopait 3 ou 4 pas devant l'autre. Sébastien pensa, avec raison, que le premier des deux hommes était un maître, le second un domestique. Il fit donc 3 pas pour s'adresser au premier. Celui-ci, qui vit un homme jaillir en quelque sorte du fossé, crut à quelque guet-apens et mit la main à ses fontes. Sébastien remarqua le mouvement. « Monsieur, dit-il, je ne suis pas un voleur. Je suis un enfant que les derniers événements arrivés à Versailles attirent à Paris pour y chercher mon père. Je sais laquelle de ces deux routes je dois prendre. Indiquez-moi celle qui conduit à Paris et vous m'aurez rendu un grand service. » La distinction des paroles de Sébastien, l'éclat juvénile de sa voix, qui ne semblait pas inconnu au cavalier, firent que, si pressé qu'il parut être, il arrêta son cheval. « Mon enfant, demanda-t-il avec bienveillance, qui êtes-vous et comment vous hasardez-vous à pareille heure sur une grande route ?»« Je ne vous demande pas qui vous êtes, moi, monsieur. Je vous demande ma route, la route au bout de laquelle je saurai si mon père est mort ou vivant. » Il y avait dans cette voix presque enfantine encore un accent de fermeté qui frappa le cavalier. « Mon ami, la route de Paris est celle que nous suivons, dit-il. Je connais mal moi-même, n'ayant été à Paris que 2 fois, mais je n'en suis pas moins sûr que celle que nous suivons est la bonne. » Sébastien fit un pas en arrière en remerciant. Les chevaux avaient besoin de souffler, le cavalier, qui paraissait le maître, reprit sa course, mais d'une allure moins vive. Son laquais le suivit. « Monsieur le vicomte, dit-il, a-t-il reconnu cet enfant ?»« Non, mais il me semble cependant... »« Comment, monsieur le comte n'a pas reconnu le jeune Sébastien Gilbert, qui est en pension chez l'abbé Fortier ?»« Sébastien Gilbert ?» Mais oui, qui venait de temps en temps à la ferme de Mademoiselle Catherine avec le grand Pitou. Ah, tu as raison, en effet. Et puis, arrêtant son cheval et se retournant, est-ce donc vous, Sébastien ? Demanda-t-il. Oui, monsieur Isidore, répondit l'enfant qui, lui, avait parfaitement reconnu le cavalier. Mais alors, venez donc, mon jeune ami, dit le cavalier, apprenez-moi comment il se fait que je vous trouve seul sur cette route à pareille heure. « Je vous l'ai dit, monsieur Isidore, je vais à Paris m'assurer si mon père a été tué ou vit encore. » Hélas, pour enfant, dit Isidore avec un profond sentiment de tristesse, je vais à Paris pour une cause pareille, seulement je ne doute plus, moi. Oui, je sais, votre frère, un de mes frères, mon frère Georges, a été tué hier matin à Versailles. Ah, monsieur de Charny! Sébastien fit un mouvement en avant en tendant ses deux mains à Isidore. Isidore les lui prit et les lui serra. Eh bien, mon cher enfant, reprit Isidore, puisque notre sort est pareil, il ne faut pas nous séparer. Vous devez être, comme moi, pressé d'arriver à Paris. Oh oui, monsieur, vous ne pouvez aller à pied. J'irai bien à pied, mais ce serait long. Aussi, je compte demain payer ma place à la première voiture que je rencontrerai sur la route, faisant le même chemin que moi, et aller avec elle le plus loin que je pourrai vers Paris. Et si vous ne rencontrez pas, j'irai à pied. Ben, faites mieux que cela, mon cher enfant. Montez en croupe derrière mon laquais. Sébastien retira ses deux mains de celles d'Isidore. Merci, monsieur le vicomte, dit-il. Ces paroles furent accentuées avec un timbre si expressif qu'Isidore comprit qu'il avait blessé l'enfant en lui offrant de monter en croupe derrière son laquais. « Ou plutôt, dit-il, j'y pense, montez à sa place, lui nous rejoindra à Paris. En s'informant aux Tuileries, il saura toujours où je suis. »« Merci encore, monsieur, dit Sébastien, d'une voix plus douce, car il avait compris la délicatesse de cette nouvelle proposition. Merci, mais je ne veux pas vous priver de ces services. » Il n'avait plus qu'à s'entendre, les préliminaires de la paix étaient posés. « Eh bien, faites mieux encore que tout cela, Sébastien, montez derrière moi. Voici le jour qui vient, à 10 heures du matin, nous serons à Dame Martin, c'est-à-dire à moitié route. Nous laisserons les deux chevaux, qui ne doivent pas nous conduire plus loin, à la gare de Baptiste, et nous prendrons une voiture de poste qui nous mènera à Paris. C'est ce que je comptais faire. Vous ne changez donc en rien mes dispositions. »« Est-ce bien vrai, monsieur Isidore ? Parole d'honneur. » Alors, fit le jeune homme hésitant, mais mourant envie d'accepter. « Descends, Baptiste, et aide monsieur Sébastien à monter. »« Merci, c'est inutile, monsieur Isidore, » dit Sébastien, qui, agile comme un écolier, sauta ou plutôt bondit en croupe. Puis les trois hommes et les deux chevaux repartirent au galop et disparurent bientôt de l'autre côté de la montée de Gondreville. Ils arrivèrent à Dame Martin vers 10 heures. Tout le monde avait besoin de prendre quelque chose, d'ailleurs il fallait s'enquérir d'une voiture et de chevaux de poste. Pendant qu'on servait le déjeuner à Isidore et à Sébastien, qui, en proie Sébastien à l'inquiétude, Isidore à la tristesse, n'avait pas échangé une parole, Baptiste faisait panser les chevaux de son maître et s'occupait de trouver une carriole et des chevaux de poste. À midi, le déjeuner était achevé et les chevaux et la carriole attendaient à la porte. Seulement Isidore, qui avait toujours couru la poste avec sa voiture, ignorait que lorsqu'on change avec les voitures de l'administration, il faut changer de voiture à chaque relais. Il en résulta que les maîtres de poste, qui faisaient observer strictement les règlements, mais qui se gardaient bien de les observer eux-mêmes, n'avaient pas toujours des voitures sur leur remise et des chevaux dans leurs écuries. En conséquence, partis à midi de Dame Martin, les voyageurs ne furent à la barrière qu'à 4h30 et aux portes des Tuileries qu'à 5h du soir. Là, il fallut encore se faire reconnaître. Monsieur Lafayette s'était emparé de tous les postes, et dans ces temps de trouble, ayant répondu à l'assemblée de la personne du roi, il gardait le roi avec conscience. Cependant, lorsque Charny se nomma, lorsqu'il invoqua le nom de son frère, les difficultés s'aplanirent, et l'on introduisit Isidore et Sébastien dans la cour des Suisses, d'où ils passèrent dans la cour du milieu. Sébastien voulait se faire conduire à l'instant même rue Saint-Honoré, au logement où habitait son père, mais Isidore lui fit observer que, le docteur Gilbert étant médecin du roi par quartier, on saurait chez le roi mieux que partout ailleurs ce qui lui était arrivé. Sébastien, dont l'esprit était parfaitement juste, s'était rendu à ce raisonnement. En conséquence, il suivit Isidore. On était déjà parvenu, quoique arrivé de la veille, à établir une certaine étiquette dans le palais des Tuileries. Isidore fut introduit par l'escalier d'honneur et un huissier le fit attendre dans un grand salon tendu de verre, faiblement éclairé par 2 candélabres. Le reste du palais lui-même était plongé dans une demi-obscurité. Le palais ayant toujours été habité par des particuliers, les grands éclairages qui font partie du luxe royal avaient été négligés. l'huissier devait s'informer à la fois et de monsieur le comte de Charny et du docteur Gilbert. L'enfant s'assit sur un canapé, Isidore se promena de long en large. Au bout de 10 minutes, l'huissier reparut. Monsieur le comte de Charny était chez la reine. Quant au docteur Gilbert, il ne lui était rien arrivé. On croyait même, mais sans pouvoir en répondre, qu'il était chez le roi. Le roi, étant enfermé, avait répondu le valet de chambre de service avec son médecin. Seulement, comme le roi avait 4 médecins par quartier et son médecin ordinaire, on ne savait pas bien précisément si le médecin enfermé avec sa majesté était monsieur Gilbert. Si c'était lui, on le préviendrait à sa sortie que quelqu'un l'attendait dans les antichambres de la reine. Sébastien respira librement. Il n'avait donc plus rien à craindre. Son père vivait et était sain et sauf. Il alla à Isidore pour le remercier de l'avoir amené. Isidore l'embrassa en pleurant. Cette idée que Sébastien venait de retrouver son père lui rendait plus cher encore ce frère qu'il avait perdu et ne retrouverait pas. En ce moment, la porte s'ouvrit. Un huissier cria « Monsieur le comte de Charny ?»«
C'est moi, » répondit Isidore en s'avançant. « On demande monsieur le vicomte chez la reine, » dit en s'effaçant l'huissier.
« Vous m'attendrez, n'est-ce pas, Sébastien ?» dit Isidore, « à moins que monsieur le docteur Gilbert ne vienne vous chercher. Songez que je réponds de vous à votre père. »«
Oui, monsieur, » dit Sébastien, « et en attendant, recevez de nouveau mes remerciements. »
Isidore suivit l'huissier et la porte se referma. Sébastien reprit sa place sur le canapé. Alors, tranquille sur la santé de son père, tranquille sur lui-même, bien certain qu'il était d'être pardonné par le docteur en faveur de l'intention, son souvenir se reporta sur l'abbé Fortier, sur Pitou et sur l'inquiétude qu'allait causer à l'un sa fuite, à l'autre sa lettre. Il ne comprenait même pas comment, avec tous les retards qu'il avait éprouvés en route, et puis tout, qui n'avait qu'à déployer le compas de ses longues jambes pour marcher aussi vite que la poste, ne les avait pas rejoints. Et tout naturellement, par le simple mécanisme des idées, en pensant à Pitou, il pensait à son encadrement ordinaire, c'est-à-dire à ses grands arbres, à ses belles routes ombreuses, à ses lointains bleuâtres qui terminent les horizons des forêts. Et puis, par un enchantement graduel, il se rappelait ces visions étranges qui parfois lui apparaissaient sous ces grands arbres dans la profondeur de ces immenses voûtes. Il pensait à cette femme qu'il avait vue tant de fois en rêve, et une fois seulement, il le croyait du moins en réalité, le jour où il se promenait dans les bois de Satori et où cette femme vint, passa et disparut comme un nuage emporté par une magnifique calèche par le galop de 2 superbes chevaux. Et il se rappelait l'émotion profonde que lui causait toujours cette vue, et à moitié plongé dans ce songe, il murmurait tout bas « Ma mère, ma mère, ma mère !» Tout à coup, la porte qui s'était refermée derrière Isidore de Charny se rouvrit de nouveau. Cette fois, ce fut une femme qui apparut. Par hasard, les yeux de l'enfant étaient fixés sur cette porte au moment de l'apparition. L'apparition était si bien en harmonie avec ce qui se passait dans sa pensée que, voyant son rêve s'animer d'une créature réelle, l'enfant tressaillit. Mais ce fut bien autre chose encore quand, dans cette femme qui venait d'entrer, il vit tout à la fois l'ombre et la réalité, l'ombre de ses rêves, la réalité de Satori. Il se dressa tout debout, comme si un ressort l'eût mis sur ses pieds. Ses lèvres se desserrèrent, son œil s'agrandit, sa pupille se dilata. Sa poitrine haletante essaya inutilement de former un son. La femme passa, majestueuse, fière, dédaigneuse, sans faire attention à lui. Tout calme qu'elle semblait extérieurement, cette femme aux sourcils froncés, aux teint pâle, à la respiration sifflante, devait être sous le coup d'une grande irritation nerveuse. Elle traversa diagonalement la salle, ouvrit la porte opposée à celle par laquelle elle avait apparu et s'éloigna dans le corridor. Sébastien comprit qu'elle allait encore lui échapper s'il ne se hâtait. Il regarda d'un air effaré, comme pour s'assurer de la réalité de son passage, la porte par laquelle elle était entrée, la porte par laquelle elle avait disparu, et s'élança sur sa trace avant que le pan de sa robe soyeuse eût disparu à l'angle du corridor.
mais elle, entendant un pas derrière elle, marcha plus vite, comme si elle eût craint d'être poursuivie. Sébastien hâta sa course le plus qu'il put. Le corridor était sombre. Il craignait, cette fois encore, que la chère vision ne s'envolât. Elle, entendant une marche toujours plus rapprochée, pressa sa marge en se retournant. Sébastien poussa un faible cri de joie. C'était bien elle, toujours elle. La femme, de son côté, voyant un enfant qui la suivait à bras tendus, et ne comprenant rien à cette poursuite, arriva au haut d'un escalier et se lança par les degrés. Mais à peine avait-elle descendu un étage que Sébastien apparut à son tour au bout du corridor en criant « Madame, madame !» Cette voix produisit une sensation étrange dans tout l'être de cette jeune femme. Il lui sembla qu'un coup la frappant au cœur, moitié douloureux, moitié charmant, et du cœur courant avec le sang dans les veines, répandait un frisson par tout son corps. Et cependant, ne comprenant rien encore, ni à cet appel, ni à l'émotion qu'elle éprouvait, elle doubla le pas, et de la course passa en quelque sorte à la fuite. Mais elle n'avait plus sur l'enfant assez d'avance pour lui échapper. Ils arrivèrent presque ensemble au bas de l'escalier. La jeune femme s'élança dans la cour, une voiture l'y attendait, un domestique tenait ouverte la portière de la voiture. Elle y monta rapidement et s'y assit. Mais avant que la portière fût refermée, Sébastien s'était glissé entre le domestique et la portière, et ayant saisi le bas de la robe de la fugitive, il la baisait avec passion en s'écriant « Oh, madame, oh, madame !» La jeune femme alors regarda ce charmant enfant qui l'avait effrayé d'abord, et d'une voix plus douce qu'elle n'était d'habitude, quoique cette voix eût encore conservé un mélange d'émotion et de frayeur. « Eh bien, dit-elle, mon ami, pourquoi courez-vous après moi? Pourquoi m'appelez-vous? Que me voulez-vous? Je veux, dit l'enfant en tout haletant, je veux vous voir, je veux vous embrasser. » Et assez bas pour que la jeune femme seule pût l'entendre, « Je veux vous appeler... » « Ma mère, » ajouta-t-il. La jeune femme jeta un cri, prit la tête de l'enfant dans ses deux mains et, comme par une révélation subite, l'approchant vivement d'elle, colla ses deux lèvres ardentes sur son front. Puis, comme si elle eût craint à son tour que quelqu'un ne vînt et ne lui enlevât cet enfant qu'elle venait de retrouver, elle l'attira à lui, jusqu'à ce qu'il fût tout entier dans la voiture. Elle le poussa du côté opposé, tira elle-même la portière, et, abaissant la glace, qu'elle releva aussitôt, « Chez moi, dit-elle, rue Coquéron, numéro 9, à la première porte cochère en partant de la rue Plâtrière. » Et, se retournant vers l'enfant, « Ton nom ?» demanda-t-elle. Sébastien. Ah, viens, Sébastien, viens là, là, sur mon cœur. Puis, se retournant en arrière, comme si elle était près de s'évanouir, oh, murmura-t-elle, qu'est-ce donc que cette sensation inconnue? Serait-ce ce qu'on appelle le bonheur?